Bonjour et bienvenue sur le podcast Oliepathe. Aujourd'hui, j'accueille Alice, une docteure en éthologie. Bonjour Alice, comment vas-tu ?
Salut, ça va bien, je rentre de balade.
Très bien, je suis très contente de t'accueillir sur le podcast. Est-ce que tu peux te présenter et également présenter tes animaux ?
Ouais, alors, je m'appelle Alice Mignot, du coup j'ai 29 ans, j'habite à Lyon. Et je suis psychologue clinicienne de formation et je suis docteur en éthologie et en anthropologie. Et j'ai fait ma thèse du coup sur le bien-être des chiens en médiation animale. Et à côté de ça, je fais de la vulgarisation scientifique sur le comportement canin et l'éducation canine bienveillante dans le podcast Dans la tête des chiens. Et du coup, pour les animaux qui vivent actuellement avec moi, donc il y a Jean-Michel, mon chat, qui va avoir 12 ans dans quelques jours, qui est un chat de gouttière qui a été abandonné à 9 ans et du coup on l'a récupéré parce qu'on voulait un chat vraiment pas jeune. Et Bocuse, du coup, qui a 4 ans cet été et qui va fêter sa 3e année avec moi, qui est un berger créole qui vient de Guadeloupe et qui a été trouvé, comme tous les créoles, quoi, dans la rue, squelettique, sur une plage. Et voilà. Et du coup, ils vivent tous les deux avec moi. Et on accueillera bientôt un autre petit compagnon, mais j'en parlerai plus tard.
Okay, trop bien. Du coup, aujourd'hui, on va parler d'éthologie. Est-ce que déjà, tu peux nous dire ce que c'est ?
Ouais, alors en fait, l'éthologie, il y a plein de définitions plus ou moins officielles. Okay. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment une discipline scientifique qui va s'intéresser au comportement des animaux qui soient humains ou non humains. Donc on va avoir toute une branche de l'éthologie qui va s'intéresser aux animaux non humains, donc chiens, chats, principalement espèces sauvages, lions, tigres, les loups, les oiseaux, etc. Et il y a une autre branche qui n'est pas du coup de la psychologie, qui va s'intéresser au comportement des humains et ça se retrouve principalement dans tout ce qui est marketing, publicité.
D'accord. Et du coup, ça consiste en quoi quand on est éthologue ?
Alors,
c'est assez vaste comme question.
Ouais, bah en fait, c'est super varié et c'est assez drôle parce que du coup, plus je parle avec d'autres gens qui ont fait des études d'éthologie, plus je remarque qu'en fait, on ne fait pas du tout tous la même chose, quoi.
Ah ouais ?
Et bah ouais, parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui choisissent du coup le parcours d'enseignant-chercheur à l'université. D'accord. Donc, ils sont moitié maître de conf, moitié dans la recherche. Et donc, qui vont faire des recherches. Attends, je pense que je vais aller fermer la fenêtre. Et on a après toute une branche d'éthologues qui vont être un peu plus indépendants et qui vont soit eux-mêmes se scotcher sur des programmes de recherche, soit créer leur propre programme de recherche et se faire financer. Et là-dedans, on a des métiers extrêmement différents parce qu'en fait, bah déjà, il y a ceux qui vont étudier les espèces plutôt domestiques et de qui on peut être assez proche facilement, genre chien, chat, cochon, lapin, et ceux qui vont étudier les espèces sauvages et qui, du coup, la plupart du temps, vont devoir partir pour aller faire des observations de terrain. Et on a aussi deux grosses branches. Donc, on a tout ce qui va être études de terrain, donc prendre vraiment l'animal là où il est. Donc, par exemple, le lion dans la savane. C'est peut-être que le lion ne vit pas en savane d'ailleurs, mais pour moi, un lion, ça vit dans une savane. Et par exemple, l'environnement naturel du chien de compagnie, c'est chez nous les humains. On a le chien de rue, etc. Et on a toute une branche de l'éthologie où ça va être en laboratoire. Du coup, on va faire un plan d'expérimentation et se dire, typiquement, est-ce que si on pointe une gamelle au chien, il va choisir celle qu'on pointe ou il va choisir l'autre ? Et là, on va être dans un environnement de laboratoire, donc tout va être standardisé pour qu'on puisse juste évaluer ce petit point spécifique sans avoir des perturbations liées aux conditions dans lesquelles on est.
Ok, et du coup, quand tu travailles en laboratoire, tu ne dépends pas du tout d'une université, c'est vraiment, tu dépends d'un laboratoire du coup ?
Du coup, non, en fait, dans les universités, on a des laboratoires de recherche.
Ok.
Où là, pour le coup, oui, on dépend totalement de l'université, mais on peut être chercheur associé. Donc être éthologue et parfois venir se greffer, ce qui est très pratique pour pouvoir publier par exemple, parce qu'on ne peut pas faire de publication scientifique sans être affilié à l'université. Okay. Et du coup là-dedans, désolée mais c'est les termes je pense qui sont un peu spécifiques, mais du coup on peut faire études de terrain ou études de laboratoire qui ne nécessitent pas forcément d'être rattaché à l'université, c'est juste que on va être dans un cadre le plus standardisé possible. Enfin, on ne va pas être dehors, quoi. En gros, okay. C'est plus simple.
Mais du coup, là, quand tu disais, quand on n'est pas forcément rattaché à une université, on peut rien publier de ce qui est dans l'article scientifique?
Ouais, bah en fait, ça reste quand même assez intéressant, je trouve, comme limite imposée par les maisons d'édition scientifique,
Ouais.
c'est que quand tu publies, tu peux pas être, toi, un petit chercheur qui va te dire « Tiens, j'ai envie de faire une étude et de la publier de moi-même. » Il faut être rattaché, enfin, en tout cas, j'espère que je dis pas de conneries parce que dans ma tête, c'est vraiment comme ça,
Ok.
mais il faut être rattaché à une université, en fait, qui supporte ton travail et qui va le légitimer pour être en publication scientifique.
Ok. Et du coup, si t'es pas forcément rattaché à une université, tu sais par qui t'es financé? Peut-être par le laboratoire, mais si tu le fais vraiment dans ton coin tout seul.
Alors, du coup, il y a des financements privés. Moi, je suis en plein dedans en ce moment et c'est vraiment quelque chose d'assez complexe. C'est
J'imagine.
en fait, c'est que tu vas grappiller à des entreprises
Ok.
de l'argent en leur disant bah, pourquoi toi tu trouves ça intéressant et qu'est-ce que ça pourrait leur apporter. Donc, typiquement, voilà, moi là, je suis en train de chercher pour financer mon post-doctorat sur les chiens. Je vais soudoyer un peu des entreprises d'alimentation pour chiens, des entreprises pharmaceutiques qui s'intéressent aux animaux. Et voilà, après, il y a des fonds publics aussi qui sont débloqués pour la recherche. Mais en France, pour les éthologues, c'est pas très bien fait. Et du coup, souvent, c'est compliqué de se faire financer dans des recherches en éthologie. Et c'est pour ça que
Okay.
soit on est enseignant-chercheur, soit on part à l'étranger en général.
Okay. C'est peut-être dû aussi parce que le métier il est pas connu.
Ouais, bah en fait le métier n'est pas connu, la pertinence n'est pas évidente pour tout le monde. Enfin voilà, toi et moi on adore les animaux et on sait l'intérêt de connaître leurs besoins, de
Ouais.
connaître leur comportement. Mais par exemple, on va dire que les fonds privés vont vachement plus donner à tout ce qui est des gens qui vont produire des vaccins ou des gens qui vont trouver comment mieux aménager l'espace public pour faciliter la vie, etc. Et c'est vrai que nous avec nos histoires d'animaux, ben c'est mignon et les gens, ça les touche, mais de là à débloquer 100 000 euros pour ça,
Oui.
voilà, ça devient un peu compliqué, quoi.
Je te dis ça parce qu'en fait, j'aimerais bien être éthologue et enfin travailler en tout cas dans cette branche-là. Et en fait, quand j'en parle à des gens, mais personne ne connaît. Enfin, même des gens qui travaillent avec des animaux, c'est très peu connu, j'ai l'impression. Donc, c'est pour ça aussi peut-être qu'il y a
Ah
moins
ben,
de
personne ne connaît.
sponsors.
Moi, la nana qui me suit chez Pôle emploi n'a toujours pas compris ce que je faisais dans la vie, quoi. Mais c'est important, je pense, d'en parler et de montrer l'intérêt parce qu'en fait, du coup, bah ouais, et en fait, tu vois, par exemple, moi, ça me. Enfin, que ce soit le choix d'étudier une espèce sauvage ou, ben, par exemple, cette espèce sauvage, elle va aussi être présente dans des zoos. C'est important qu'il y ait des éthologues qui étudient les besoins de cette espèce pour savoir comment on va enrichir l'espace, comment on va pouvoir la mettre ou pas avec ses congénères, quel type de congénères, etc. Et en fait, c'est hyper important. Et moi, pour les animaux domestiques, particulièrement de compagnie, enfin, je trouve que l'intérêt, il est énorme. Et bon, on va passer directement dans le vif du sujet de l'éducation canine, mais moi, pour moi, un éducateur canin qui ne sait pas ce qu'est l'éthologie et qui ne sait pas ce qu'a dit l'éthologie sur le chien, va avoir du mal à bien faire son métier parce qu'au
C'est un peu
final,
compliqué quand c'est quand même,
Bah, exactement.
quand même un peu son métier, quoi.
Ben, en fait, moi, ce que je dis toujours, c'est que en éthologie, nous, on est là pour transmettre, enfin, pour récolter des données, les transmettre. Et nous, c'est des données qui sont généralisables. Donc, en fait, à partir du moment où ça a été validé scientifiquement, c'est validé scientifiquement, point. Et du coup, c'est trop bien parce que les éducateurs canins et comportementalistes, ils vont se saisir de ce qu'on trouve dans la recherche pour eux l'appliquer dans la vie de tous les jours et bah, montrer, enfin, voilà, dire à leurs clients. Bah, par exemple, la hiérarchie n'existe pas chez les chiens parce que ça a été démontré scientifiquement et donc ça sert à rien de vouloir que votre chien ne monte pas sur le canapé ou le lit pour des histoires de hiérarchie, par exemple.
Oui, c'est ça. Mais par exemple, encore une fois, par rapport au fait que ça soit pas connu, mais si on parle de Jane Goodall, qui me semble est éthologue, hein, et que c'est,
Ouais.
voilà. Enfin là, je dirais pas que la plupart des gens connaissent, mais il y a quand même une bonne partie des gens qui en ont entendu parler, quoi. Donc,
Ouais, mais en fait, les gens vont. Enfin, moi, je sais que ça m'est souvent arrivé quand je disais oui, je suis docteur en éthologie, que les gens me disent ah oui, comme les gens qui étudient les singes, etc.
Ouais.
Et en fait, le truc, c'est que ils s'imaginent un peu ce qu'on fait, c'est-à-dire que oui, on va observer des animaux,
Ouais.
mais ils s'imaginent pas tout l'aspect scientifique en fait qu'il y a derrière et le fait que ben Ouais, en fait, on ne va pas juste aller observer des animaux avec nos yeux et se dire, bah voilà, je décrète que cet animal fait ça, donc que toute l'espèce fait ça. C'est qu'on a vraiment un répertoire comportemental, un éthogramme. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir des comportements qu'on va coder d'une certaine façon selon ce qu'on étudie. Et à partir de là, on va faire des stats. Et à partir de là, on pourra généraliser. Donc, c'est pas... Enfin, voilà, il y a tout un travail de l'éthologue qui est effectivement de l'observation, mais il y a aussi tout l'aspect scientifique derrière qui est énorme dans la ouais. pratique. Et c'est ça que les gens, en général, comprennent pas trop.
Du coup, avant... Enfin, comme tu disais, on va passer dans le vif du sujet, mais est-ce que tu peux d'abord expliquer un peu quelles études tu as faites pour faire ce doctorat ?
Oula, alors moi, il faut savoir que je n'ai pas du tout le profil typique. En général, les gens qui sont éthologues ont fait une licence de biologie, à peu près, puis un master d'éthologie. Puis un master d'éthologie, je ne sais pas exactement combien il y en a, mais voilà, globalement, c'est ça. Tous n'ont pas fait une thèse à la fin. C'est pour ça qu'il y a une différence quand même entre éthologue et docteur en éthologie, c'est que bah, du coup, c'est pas... C'est le moment où tu valides, en fait, ton titre de docteur, quoi, par une thèse. Et moi, du coup, j'ai fait psycho. J'ai fait 5 ans, j'ai mon master 2 en psycho. Donc, j'ai fait psycho général, puis je me suis spécialisée en psychiatrie adulte et addictologie. Et après ça, j'ai fait un diplôme universitaire d'éthologie, mais alors, je ne citerai pas, parce que c'était pas la folie, quoi. Okay. Et je me suis formée en médiation animale. J'ai fait une formation privée qui, pareil, n'était pas dinguissime. Donc, je ne veux pas trop les citer. et du coup, là, je me suis dit, bon, OK, j'ai envie de connaître le bien-être des chiens en médiation animale. Le mieux pour faire ça, c'est de faire une thèse en me disant que ça allait être très facile et que c'était juste un gros mémoire. Et du coup, j'ai voulu faire une thèse d'abord en psychologie parce que vu que j'étais psychologue, je me suis dit que c'était le plus simple. Et en fait, mon sujet portait vraiment sur le chien. Je m'intéressais déjà vachement au comportement, aux signaux de stress, etc. Et du coup, c'est là où je me suis dit, bon, il va falloir que je m'oriente dans une autre discipline. J'ai fini en anthropologie parce que les disciplines scientifiques en France, c'est un peu compliqué. Et du coup, je suis allée grappiller en Belgique chez Véronique Servet, qui est psychologue et anthropologue. Et en fait, toutes ses recherches portent sur la relation homme-animal. Et la médiation animale, donc c'était pratique pour moi. Et à partir de là, on a demandé à Gérard Le Boucher, donc qui est parti à la retraite cette année, mais qui est docteur en éthologie et qui bossait au laboratoire d'éthologie de Nanterre.
Ok. Je t'interromps 2 secondes. L'anthropologie, c'est bien l'étude du comportement des hommes, non ?
Ouais, alors l'anthropologie, moi, j'ai toujours pas exactement compris ce que c'est. Et on en parle avec l'anthropologue, c'est un peu toujours pareil. Mais ouais, globalement, c'est l'étude de l'homme, de la communauté humaine, etc.
D'accord, ok, parfait. Du coup, là, on va passer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux un peu nous parler des basiques de l'éthologie canine à connaître ?
Alors, on va essayer de ne pas faire un podcast de 6 heures.
On va essayer.
Mais pour moi, le numéro 1, parce que je trouve que c'est celui qui nuit le plus aux chiens, c'est le fait qu'il y a des recherches en éthologie qui ont étudié du coup la hiérarchie, les organisations sociales, etc., qui ont bien montré que alors, les loups ne vivent pas dans une organisation hiérarchique linéaire, donc l'histoire du loup alpha, oméga, delta, femelle dominante, couple dominant, etc., ça n'existe pas dans la vraie vie. Le type qui a fait la recherche sur les loups et qui nous influe le plus sur les perceptions du chien, c'est David Mensch, qui a en fait étudié des loups en captivité. Et effectivement, quand tu mets des loups en captivité, ben, ils vont avoir une organisation qui va dépendre de la captivité. Et lui-même s'est excusé parce que c'est un peu de sa faute si dans tous les reportages télé, on voit qu'il y a un loup alpha, oméga, etc. Et en fait, lui, il a dit, mais quand on étudie en fait, les loups dans la nature, ça ne se passe pas du tout comme ça. Et en fait, les loups vivent dans une espèce de meute, mais c'est une meute familiale avec le papa, la maman et les enfants. Et ça va bouger quand les enfants grandissent, ben, ils vont finir par partir. Le papa peut changer, etc. Ils peuvent se réunir dans des moments un peu particuliers, genre les moments de chasse. Mais voilà, en tout cas, le loup ne vit pas dans une organisation hiérarchique comme celle qu'on pensait. Et de fait, de toute façon, le chien n'est pas un loup. Le chien est une espèce domestiquée qui vit avec l'humain depuis 15 000 à 30 000 avant Jésus-Christ, donc depuis vraiment très 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 longtemps.
Oui, ça fait un petit bout de temps.
Ouais, mais on voit encore des éducateurs canins bien connus qui vont comparer le chien au loup, ouais. Alors que ça n'a absolument rien à voir. Et en fait, du coup, il y a quelques études qui ont porté sur les chiens, donc entre autres les chiens des rues. On voit bien que les chiens ne vivent pas en meute, en fait. Les chiens vivent en groupes sociaux, selon leurs opportunités. Donc, par exemple, ils vont dormir vers des maisons humaines parce qu'il y a des restes, il fait chaud, etc. Ils ont un peu d'affection. Quand ils ont besoin de chasser, ils vont peut-être s'associer à d'autres chiens parce que chasser à plusieurs, c'est quand même mieux. Et en fait, c'est des petits groupes sociaux qui vont se former. Il y a aussi des études qui ont montré que les chiens avaient des préférences pour certains autres chiens. Donc, en fait, les chiens peuvent avoir des copains. Mais en tout cas, il n'y a pas d'organisation hiérarchique. Et ça, je trouve ça important parce qu'il y a beaucoup de gens, tu vois, quand tu croises des gens dans la rue avec ton chien, qui te disent « Oui, mais le mien, il est dominant, faites attention, etc. » Non, il est juste mal codé, ça n'a rien à voir.
Oui.
Ou il est agressif.
Non, mais c'est vrai que c'est vraiment une idée hyper ancrée dans la tête des gens, alors que ce n'est pas forcément le cas, quoi.
Ouais, et puis ça nuit vachement au chien parce qu'en fait, si tu lui mets une étiquette de « il est dominant, il veut dominer, etc. », en fait, tu fais pas l'effort de bosser dessus et de comprendre pourquoi il est comme ça. Parce qu'en fait, oui, peut-être que ton chien, il a envie de cartonner tout le monde, mais peut-être que c'est parce qu'il a peur, peut-être que c'est parce qu'on lui a jamais appris qu'il pouvait éviter une situation, peut-être que c'est parce que c'est un petit chien qui est entouré de gros chiens qui ont pu
le cassaner un peu avant. Ouais.
Il se sent pas bien parce que il est minuscule dans un monde de grands, quoi. Et en fait, il y a plein d'hypothèses et je trouve que justement, ouais, mettre des étiquettes, c'est compliqué. Et il y a l'autre chose qui concerne aussi la hiérarchie, c'est le fait qu'en éthologie, on n'a pas démontré qu'il y avait une hiérarchie entre les différentes espèces. Donc en fait, tout ce qui est la relation entre, par exemple, un humain et un chien, il n'y aura pas du tout d'histoire de dominant-dominé.
Mais pareil, ça c'est hyper... c'est tellement ancré dans la tête des gens que
c'est
que
très,
pas
très,
se laisser dominer par le chien, que sinon c'est la fin pour vous deux, alors que pas du tout. Le chien, il ne réfléchit pas comme ça.
Ouais, mais en fait, tu vois, le truc, c'est que moi, ça me perturbe parce que du coup, je suis un peu en guerre avec certains éducs en ce moment, qu'on voit beaucoup sur YouTube parce que justement, ils mettent ça dans la tête des gens, ils insistent là-dessus. Ouais. En disant, il faut être le chef de meute, il faut dominer votre chien, sinon c'est votre chien qui va vous écraser. Et en fait, déjà, scientifiquement, c'est faux. Et ça amène à des comportements avec le chien qui sont complètement injustes pour le chien.
Oui, et ça n'améliore pas leur relation, au contraire.
Ah non, et au contraire, en fait, si tu te dis, mon chien a envie de me bouffer et la moindre marge de liberté que je vais lui donner, il va essayer de me bouffer, ça n'a aucun intérêt. Donc, clairement, tu vis dans la peur constante de te faire bouffer. Et en plus, on vit, moi, ce que je dis toujours, moi, je vis avec un chien de 30 kilos, je fais 50 kilos. S'il voulait me bouffer, ça fait longtemps que je ne serais plus là, quoi. Mais par contre, moi, je ne dis jamais rien. Tu vois, si les gens, ils n'ont pas envie que leur chien monte sur le canapé parce qu'ils n'aiment pas les poils ou qu'ils viennent dans le lit parce que ils n'ont pas envie, c'est très bien, grand bien leur fasse, en fait, on s'en fout. Si la raison, pour eux, elle est valide, la raison, il ne faut juste pas que ce soit « mon chien doit être au sol parce qu'il faut que je le domine, parce que le chien doit manger après tout le monde ». Parce qu'en fait, le chien est une, j'allais dire un esclave, mais franchement, parfois, c'est limite ça, quoi. Ouais. C'est vraiment, le chien doit passer en dernier parce que c'est un chien, quoi.
En plus, surtout, le chien, il comprend pas pourquoi on agit comme ça avec lui. Et je pense que ça lui crée même un sentiment de peur, peut-être. Je sais pas, je suis pas...
Ah totalement.
Mais j'imagine, quoi.
De toute façon, à partir du moment où tu as des comportements de contrainte, voire de violence avec un chien, c'est pas bon. Je veux dire, c'est comme n'importe quelle autre espèce, en fait. Moi, c'est ce que je dis à tout le monde, c'est qu'en fait, le but, c'est que la relation avec ton chien soit basée sur de la confiance. Et quand tu arrives à ça, en fait, tu as tout gagné. Oui, c'est normal que parfois, il y ait des petites incompréhensions, que ton chien te casse un peu les couilles. Ce matin, on a fait une balade, il y avait des trucs à bouffer partout. Bocuse, c'était un chien des rues, donc dès qu'il y a un truc à bouffer, tu peux être sûr qu'il va le trouver. Il m'a tapé sur le système. Mais en fait, en observant le comportement canin, je sais que c'est des comportements qui sont de toute façon trop ancrés en lui.
Il a appris à faire tout simplement.
Non, alors moi je suis un peu et je laisse faire les trois quarts du temps parce qu'en soi je m'en fous et que il a un système digestif très performant. Donc globalement il digère tout et je laisse parce que j'ai pas envie d'entrer en guerre. Mais là, hier, par exemple, c'était un enfer parce qu'en fait, c'était des gens qui avaient fait des barbecues qui laissaient traîner des os de poulet.
Ah.
Les os de poulet, ça casse, ça fait des occlusions, ça vient perforer des organes vitaux. Donc, du coup, je dois aller lui retirer dans la bouche, quoi. Mais je pense qu'il me fait assez confiance pour que même quand je viens lui retirer dans la bouche de façon la plus inadaptée possible, parce que, en fait, t'as 3 secondes pour le retirer avant qu'il le gobe, même là, il me dit rien et il me regarde juste en mode, vas-y, enlève. Je sais que, de toute façon, voilà. Mais parce qu'il me fait confiance et parce qu'il sait que tout le reste du temps, je l'embête jamais, en fait. Bocu, je lui demande pas grand-chose. Je lui demande juste d'être cool, de pas embêter Jean-Mich parce que, j'aime bien que chacun ait son espace à la maison. Mais voilà. Et du coup, tout ça pour dire que j'estime que quand il y a plusieurs scientifiques qui ont dit la hiérarchie interespèce n'existe pas, la hiérarchie chez les chiens n'existe tout simplement pas, etc. C'est un minimum d'effort, en fait, pour les éduques d'aller trouver cette information.
Ouais. En plus, c'est un peu leur métier, quand même, de dire des choses vraies aux propriétaires, enfin, de ne pas aller raconter n'importe quoi.
Ouais, mais c'est toujours pareil, en fait. C'est que tu as des gens qui sont super butés et je ne citerai toujours pas de nom, mais j'ai vraiment mon idée en tête. tu vois, c'est un éduc qui est très, 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 très connu et très, très mauvais.
Je pense voir de qui tu parles.
Oui, mais je pense que tout le monde sait parce que on a la pub partout. Donc, à un moment, on est forcément bouffé. Mais la dernière fois, il a fait une vidéo où il expliquait qu'il ne voulait pas entendre parler des articles scientifiques. Et il disait, ne vous fiez pas aux articles scientifiques. Moi, j'ai de l'expérience. Ces articles qui sont écrits sur des blogs,
mais l'expérience, ça suffit pas. L'expérience, exactement. Ça suffit pas. C'est pas suffisant, quoi.
Exactement. Et il y a même une étude qui a montré que ce n'est pas parce que tu as de l'expérience avec les chiens que tu arrives à bien lire leur comportement.
Ah ouais ?
Et ça, pour moi, c'est une évidence. Ouais, c'est une étude sur la perception du stress.
Okay.
Et en fait, ils ont regardé, est-ce que l'expérience avec les chiens joue ? Parce que, oui, tu vis avec des chiens, au bout d'un moment, tu les comprends. Mais en fait, non, l'expérience ne joue pas forcément parce que c'est toujours l'idée de si t'es buté, que tu t'ouvres pas et que tu te formes pas, tu peux pas t'améliorer sur ta lecture du comportement canin. Et là, c'est exactement ce que ce type d'éduc fait. Et en plus, il renie ce que dit la science avec sa petite validation empirique. Et moi, à chaque fois, ce que je dis à tout le monde, en fait, c'est comme si moi, je généralisais le comportement de Bocuse à tous les chiens.
Ouais, et puis surtout, et déjà de faire cette vidéo, c'est un peu bête, j'ai envie de dire, parce que les gens qui voient ça, ils pourraient se dire, ok, peut-être que là, faudrait plus lui faire confiance. Enfin, je pense qu'il y a toujours des gens qui lui feront confiance, mais c'est un peu. Ouais,
mais ça dépend toujours qui. Parce qu'en fait, dès que tu parles un peu de scientifique, moi, je remarque, dans le podcast, ça va, je suis plutôt tranquille, et la communauté qui me suit, c'est des gens qui soit s'intéressent déjà un peu au monde scientifique, soit s'y sont mis et se disent, effectivement, c'est hyper pertinent d'aller regarder ce qui est mis dans la recherche, quoi. Mais je me rappelle au tout début de mon blog, donc il y a 9 ou 10 ans aujourd'hui, je me suis fait alpaguer par tout un pan de la population générale qui trouvait que l'argument scientifique n'était pas valide.
Ah ouais.
Mais voilà, moi je me dis que c'est... Enfin, on va partir un peu loin, mais je me dis que... tu vois, c'est comme les complotistes, c'est comme les gens qui disaient que le vaccin du Covid pouvait te tuer, etc. C'est, en fait, le problème, c'est qu'on communique pas assez sur ce que c'est la science et ce que ça peut apporter. Et donc, dès que c'est un peu nouveau comme ça et dès que c'est pas hyper clair pour les gens, t'as plein de gens qui vont avoir peur.
Oui, je pense que c'est vraiment la peur qui fait qu'ils veulent pas faire confiance, en fait. Ils veulent se reposer un peu sur ce qu'ils ont, quoi.
Alors que en fait c'est trop nul parce que, du coup, l'éthologie, ça permet de comprendre vraiment plein de trucs sur le comportement canin. Enfin, moi, depuis que je fais ça, je lis tellement bien les chiens et ça me fait du bien parce que du coup, j'ai moins d'incompréhension avec Bocuse. Mais aussi, tu vois, quand je croise un chien dans la rue, moi, ça me permet de savoir si j'y vais ou pas avec Bocuse parce que, en fait, tu travailles tes yeux et t'as, par exemple, des éduques et même certains éthologues encore qui vont dire que les signaux d'apaisement n'existent pas. Donc les signaux d'apaisement, pour ceux qui ne savent pas, c'est des signaux de stress qui correspondent à des signaux qui ont été validés dès 1997 de stress chez les chiens. Et en fait, on appelle ça signaux d'apaisement parce que ça a été montré dans une étude de 2017, enfin de 2014 entre les chiens et de 2017 entre chiens et humains, que ces signaux sont envoyés soit en prévention d'un conflit pour éviter que le conflit arrive, soit pendant un conflit pour que le conflit s'arrête, soit après un conflit pour que le conflit ne recommence pas. Et okay. Ces signaux, ils sont hyper importants parce qu'en fait, c'est des tout petits signes où ton chien va te dire, ou ton chien va te dire à quelqu'un d'autre, je ne suis pas confortable dans la situation, ou ne t'inquiète pas, je ne te veux pas de mal. C'est ce qui permet que les chiens, entre eux, s'ils sont bien codés, ne se cartonnent pas. Mais c'est ce qui permet aussi de ne pas se faire mordre par son chien. Parce qu'en fait, si tu arrives à repérer ces signaux d'apaisement, tu ne pousseras jamais ton chien. Tu vas te dire, ok, non, mais effectivement, là, il stresse. On va essayer d'améliorer la situation, etc. Mais on ne va pas le pousser. Et typiquement, moi, ça me fait du mal parce que je vois beaucoup de gens, là, en ce moment... alors, moi, je n'ai pas TikTok parce que je commence à être un peu vieille. Mais je vois les vidéos de TikTok sur Instagram et tu as plein de gens qui font des gros câlins à leur chien, qui leur font des gros bisous sur la tête. Et en fait, le chien détourne le regard, plisse les yeux, se lèche les babines, baille, etc. Donc, c'est toute une panoplie de signes d'apaisement. Et les gens te disent « Ah, oh, il est trop mignon
!» Non, mais ça, ouais, en fait, le truc, c'est qu'il y a plein de vidéos de maltraitance un peu banalisée, enfin sur TikTok, ouais. Mais je pense sur Instagram aussi. Et en fait, on a l'impression que c'est mignon, mais on voit très clairement que le chien, un chat ou peu importe l'animal, enfin, il est clairement pas bien. Et
ouais. Mais les gens sont pas bien. Et plus on pousse, plus on a de risque que le chien morde, parce que là, du coup, on passe à l'échelle d'agression, qui est une théorie, mais du coup, qui est, enfin, moi, c'est ce que je dis toujours à mes clients, c'est aussi vrai chez les chiens que chez toutes les autres espèces. C'est qu'au début, tu vas envoyer des petites... Enfin, le chien va envoyer des petites mimiques faciales, va dire « je ne suis pas très, très à l'aise dans la situation, s'il te plaît, arrête. » Au bout d'un moment, le chien va essayer de partir. S'il ne peut pas partir, il va figer. S'il fige et qu'on continue de le menacer ou de le pousser, il va grogner, claquer des dents dans l'air, puis mordre. Et c'est tout un truc qui se met en place sur plusieurs temps. Alors, sauf si tu tombes sur... tu surprends le chien d'un coup et le chien réagit par la morsure. Mais en général, les chiens, quand même, ils font tout pour pas nous bouffer. Donc, ils envoient toute cette panoplie de signaux et en fait, à la fin, ça finit en morsure et les gens te disent « Bah non, mais je comprends pas, il a mordu du jour au lendemain, mais pas du tout. » Et moi, ce que je dis, c'est que...
c'est clair, quoi.
Ouais, et puis en fait, c'est comme si toi, t'es dans la rue, il y a quelqu'un qui vient et qui marche super près de toi. Au début, tu vas détourner la tête et tu vas essayer de te faire le plus petit possible en te disant « Bon, il va oublier que j'existe et il va finir par partir. » Si la personne s'approche et que tu la sens de plus en plus insistante, ben en fait... tu vas essayer de partir. Si la personne ne part pas, tu te dis « Ok, je ne peux pas sortir de la situation », tu vas te tétaniser, tu vas arrêter de bouger. Et si cette personne s'approche encore, au bout d'un moment, tu vas lui foutre une gifle. Ouais. Parce que ça va te stresser, etc. Et tu vas essayer d'éloigner la menace comme tu peux, avec les outils que chacun a, bien évidemment. Et en fait, les chiens, leurs outils, c'est les dents. Donc, ouais. à la fin, on y perd. Et c'est pour ça que là aussi, l'éthologie, c'est important parce que bah voilà, quand tu sais que les chiens envoient des signaux d'apaisement, tu connais les signaux de stress des chiens, tu sais que ça peut finir en morsure, et ben du coup, en éducation canine, c'est facile de s'adapter parce que tu ne vas pas t'arrêter à chaque signal de stress, bien évidemment, mais tu vas savoir quelle est la limite de ton chien et à quel moment tu dois surtout ne pas pousser ton chien.
Oui, mais je ne sais pas si tu connais, je ne sais pas si elle est aussi sur YouTube, c'est une fille qui s'appelle Emma, il me semble, et qui a un compte qui s'appelle Animals Interest.
Ouais.
Et je sais pas si tu la suis et tout, mais en fait, elle fait des petites vidéos comme ça, enfin, sur des analyses de comportement, et c'est hyper intéressant. Et elle fait aussi une série de vidéos sur est-ce que c'est en fait agréable pour l'animal ou si c'est un peu de la maltraitance banalisée. Et ça revient un peu à ce que tu disais, enfin, souvent des chiens qui montrent clairement qu'ils sont pas à l'aise et que ça, souvent ça finit mal, quoi. Et du coup, en fait, c'est un peu comme dans un quiz et ça te permet aussi de renforcer en fait ta culture, j'ai envie de dire, enfin ta connaissance sur le comportement du chien, quoi.
Ouais, mais elle fait partie d'Anna que j'aime bien parce que je trouve que elle transmet bien au grand public.
Elle explique hyper bien.
Ouais, et effectivement, enfin moi je trouve ça important d'alerter, mais c'est, enfin voilà, dans tous ces trucs là il y avait le regard de culpabilité aussi où t'avais des vidéos de gens où leur chien avait fait une connerie, ils lui disaient mais qu'est-ce que t'as fait, le chien détournait le regard et tout. Et en fait, ces vidéos, elles sont horribles. Mais vraiment, c'est hyper violent pour le chien. Et les gens, tu vois, ça les fait marrer. Et en fait, dès que tu leur dis, ils sont là. Ah, ouais. Bah,
Et
ouais.
en fait, le problème, c'est que tu sais, ça les fait marrer. Et du coup, je sais pas, des fois, peut-être qu'ils doivent peut-être couper la partie où le chien, ben, il réagit, il mord, ou je sais pas. Et en fait, ça fait rigoler tous les gens, enfin, qui voient cette vidéo. Et en fait, ils se rendent pas compte à un moment que c'est pas bien. Et ça amène encore plus, en fait, de maltraitance banalisée, j'ai envie de dire.
Bah oui, totalement. Et puis en fait, dès que tu dis un truc sur ce genre de vidéo, les gens te disent, oh mais ça va, on peut plus
Oui,
rien
c'est pas
faire.
grave, ouais.
Ben, en fait, le truc, c'est que c'est pas on peut plus rien faire. Alors déjà, moi, j'estime que effectivement, on n'a pas vraiment le droit de faire ce qu'on veut à un autre être vivant, mais voilà.
Oui, mais tout le monde ne pense pas comme ça, malheureusement.
Ouais, mais en fait, c'est surtout que au-delà d'aller contre le bien-être du chien et que ce soit une situation qui, même si voilà, les gens, ça les fait marrer, c'est violent pour leur chien, c'est que c'est dangereux en fait. Et moi, c'est ce que je dis souvent, c'est que en fait, même si tu te dis, je m'en fous du bien-être de mon chien. Tu
Bah
peux
ouais,
pas
mais
t'en
c'est pas.
foutre du fait de te faire mordre.
Ouais, et puis surtout, enfin, si le chien, il montre clairement qu'il n'est pas à l'aise et qu'il mord et que. Ça arrive souvent, bah à un moment, je pense qu'il mordra directement et parce qu'il se rendra compte que ça sert à rien, quoi, de montrer qu'il est
Exactement.
pas à l'aise. Et ça,
Ben
c'est
en
pour le
fait,
coup, ça peut être dangereux, quoi, à la fin.
ouais, ben en fait, c'est là où je trouve que c'est hyper intéressant, c'est que. L'échelle d'agression, c'est une échelle qui est là, et donc effectivement, le chien a passé par toutes ces étapes. Sauf qu'en fait, moins il va être respecté, plus il va monter haut d'un coup.
Ouais.
Et en fait, c'est ce qu'on voit, voilà, en SPA, en vrai, t'en as plein, hein, mais des chiens qui vont mordre direct, vraiment sans prévenir littéralement. Mais en fait, c'est des chiens, pendant 5 ans, on n'en avait rien à faire de leurs signaux, et même on a puni certains signaux, il y a plein de gens encore qui punissent un chien qui grogne. Et du coup, bah ouais, au bout d'un moment, le chien, il se dit, bah en fait, la seule façon d'éloigner la menace, c'est de passer à l'agression.
Ouais, parce
Donc,
qu'en fait, ils se disent que ça sert à rien en fait, de montrer que ça ne va pas trop, de se lécher les babines ou je ne sais pas quoi. Enfin, parce qu'en fait, ils m'écoutent pas dans tous les cas, donc autant mordre directement. Et là, au moins, la menace, elle est écartée, quoi.
bah ouais, c'est ça. Bah après, en fait, bon, il y a quand même deux options assez tristes chez les chiens. Chez les chiens vraiment qui sont dans un environnement hyper contraignant, etc., il y a l'option, oui, au bout d'un moment, ils vont mordre. Et dans ces cas-là, ils finissent souvent à la SPA,
Ouais.
où les gens vont jamais se remettre en question sur est-ce que c'était. Enfin, je fais une généralité, hein, évidemment, qu'il y a des gens
Oui, c'est
qui
sûr.
emmènent leur chien en refuge et qui culpabilisent toute leur vie d'avoir fait ça et qui étaient juste pas bien aiguillés aussi. Mais, enfin, tu vois, moi, ça m'arrive souvent. Qui est des gens dans des assos qui me contactent parce que bah, en fait il y a quelqu'un qui est venu abandonner un chien mais en fait qui a repris un chiot juste derrière et la raison souvent c'est qu'en fait le chien est devenu complètement incontrôlable alors à leurs yeux mais en fait c'est juste que bah, leur chien il vit tellement dans un environnement de contraintes que bah ouais au bout d'un moment il pète un câble en fait et juste bah, il va mordre dès qu'il peut et après si enfin oui, la rééducation ça sert aussi à ça alors je pense qu'il y a vraiment des chiens qui sont trop cassés. Mais en rééducation, tu peux réapprendre au chien à
Ah bah
communiquer, tu peux réapprendre.
j'allais te demander.
Bah, ouais, alors je pense que c'est comme chez l'humain. Tu as des humains qui vont être plus résilients que d'autres. Et chez les chiens, c'est pareil. La résilience, c'est le fait de pouvoir se remettre de ce genre d'événements
Ouais.
traumatiques. Enfin, typiquement, voilà, tu as des enfants qui vont avoir été hyper violentés, qui vont être des adultes très bien dans leur peau. Et t'as des enfants qui vont avoir juste quelques violences et bah, qui vont pas du tout réussir à passer au-dessus,
Ouais.
qui vont avoir des relations extrêmement conflictuelles avec les autres, etc. Et en fait, bah, chez les chiens, c'est pareil. T'as des chiens qui vont vivre des événements mais horriblissimes. Enfin, je pense aux chiens, là, enfin, je suis l'association Action Protection Animale sur Instagram.
Oui, il me semble que je suis aussi.
C'est des cas horribles, mais
Ouais.
vraiment, enfin, c'est de la cruauté, en fait. Hein. On n'est même plus dans de la maltraitance. Et en fait, tu vois les vidéos d'après où les chiens, ils voient des humains, ils sont en mode je t'aime humain, quoi. Alors que,
Ouais.
enfin, effectivement,
Alors
t'as
qu'ils ont
des enfants.
vécu l'enfer, quoi.
C'est ça, ils ont vraiment vécu l'enfer. Et à côté, t'as des chiens qui ont vécu l'enfer, ou qui ont en tout cas vécu dans un environnement contraignant, et qui vont avoir envie de généralement cartonner tout le monde. Et
Ouais,
ça arrive.
et ça, c'est par juste la différence de comportement d'un chien ou ça, ou c'est, enfin, ça s'explique pas vraiment, quoi. Ça dépend juste du chien.
Je pense que ça dépend. Enfin, je pense que ouais, ça dépend juste du chien, parce qu'en fait, enfin, pour moi, c'est une question de personnalité, de pouvoir passer au-delà ou pas du trauma, quoi. Enfin, moi, par exemple, Bocuse, ça fait 3 ans qu'il vit avec moi, ça fait 3 ans que sa zone de confort est respectée, que machin, blablabla, etc. Et quand il passe devant une poissonnerie, il a encore peur de se faire taper. Parce que je pense qu'il allait grappiller de la nourriture devant une poissonnerie, qu'il a dû se prendre un coup à ce moment-là. Ouais. Et tu vois, c'est hyper ancré. Et là-dessus, on a beau le bosser, etc., je vois qu'il n'arrive pas à passer à autre chose, quoi.
Et donc, quand tu dis que tu essaies de le travailler avec lui, tu passes de temps en temps devant une poissonnerie pour essayer, ou comment tu travailles ça?
Bah, en fait, bon, j'ai une poissonnerie dans ma rue, donc c'est assez facile. Mais enfin, du coup, déjà, la première chose, c'est que Bocuse, au début, on a évité tout ce qui pouvait être trop stressant pour lui.
D'accord.
Pour le remettre un peu à un niveau de confort très, très, très bas. Enfin, très haut, niveau de confort haut, mais stress très bas. Pour justement pouvoir travailler sans qu'il soit dans un état de stress complètement constant. Et en fait, enfin... Ça aussi, merci à l'éthologie et à neurosciences, mais en fait, quand tu es trop haut en stress, ton système d'apprentissage, il ne fonctionne pas. C'est ta survie, en fait, qui est activée, donc tu peux pas apprendre, tu peux pas prendre sur toi, en fait. C'est pas possible. Ouais. Et du coup, Bocuse, vraiment, au début, on a été dans la sous-stimulation, donc voilà, on a essayé de le confronter à pas grand-chose. Et après, progressivement, on a essayé de l'habituer à certaines choses qu'il n'avait jamais vues, genre les trottinettes électriques, et de le désensibiliser à des choses qu'il avait vécues traumatiques. Donc de là, on a identifié, typiquement, poissonnerie, boucherie, etc., c'est un peu compliqué. Les enfants avec des pistolets à eau, les enfants avec des balles, les hommes bourrés, enfin bref, toute une panoplie. Et typiquement, tu vois, la poissonnerie, le but, c'était pas... Moi, je mange pas de viande des poissons. Donc, okay. C'était pas que moi, je puisse l'emmener à la poissonnerie et qu'on y aille tous les jours. Mais c'était juste de lui montrer... Tu vois, on peut juste passer devant et il se passe pas grand-chose. Donc, on n'y va pas quand il y a du monde devant. On n'y va pas quand ils sont en train de nettoyer parce qu'ils balancent des seaux d'eau. Et s'il y a une goutte d'eau qui touche vos cuisses, c'est la fin. Mais voilà, c'était juste, on passe devant. Alors au début, on restait assez loin, on était sur le trottoir d'en face, etc. Et voilà, et petit à petit, on se rapproche. Mais je vois bien que il arrive à prendre sur lui, mais il n'est pas détendu.
Ok.
Voilà.
Et du coup, par exemple, si un jour il est confronté à un événement qui l'a vraiment traumatisé, enfin quand il était plus petit, et que toi tu es en train de le travailler, travailler ça avec lui, par exemple la poissonnerie, et qu'une goutte d'eau le touche, et qu'il réagit plutôt mal, comment toi tu l'apaises? Parce que peut-être qu'il peut réagir de façon assez violente, comment tu l'apaises?
Alors.
Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais.
oui, ça m'est déjà arrivé, ouais. Alors Bocuse, il faut savoir que c'est pas moi, je me suis fait accompagner par une éducatrice qui est absolument géniale, qui s'appelle Léa Trovero, et je pense que c'est grâce à elle que j'ai vraiment, enfin je suis passée vraiment de la théorie à la pratique, c'est-à-dire que j'avais bien compris le principe de la zone de confort, de privilégier l'évitement à l'agression, etc., mais je l'avais jamais eu dans ma pratique. Et Bocuse, on a vraiment réussi à créer un lien de confiance et à lui apprendre que s'il y a une situation dans laquelle il est pas à l'aise, il peut partir.
Ok.
Et s'il ne peut pas partir, c'est moi qui gère. Le but, c'est surtout pas qu'il passe à l'agression. Et là, typiquement, on a eu le cas... moi, j'habite à côté d'une école primaire, ça va faire 2 ans. Les enfants, c'était extrêmement compliqué. Donc, on a fait tout un travail de passer devant l'école au moment où il n'y avait pas d'enfants, puis de passer quand il y avait un peu d'enfants. Et en fait, il n'y a pas si longtemps que ça, on pouvait passer même aux heures... d'entrée à l'école et de sortie d'école, sachant que 8h30 et 16h30, moi, c'est mes heures de balade, donc c'est un peu chiant de décaler tout mon planning, même si je le faisais. Ouais. Mais voilà, on avait réussi à faire tout ça sans... Alors, je dirais pas qu'il était vraiment détendu, mais en tout cas, il avait une bonne détente. Il montrait plus d'énormes signaux de stress, il pouvait renifler, il pouvait même regarder les enfants pouvaient s'approcher, mais pas le toucher, parce que moi, je ne veux pas que les gens touchent mon chien dans la rue. Justement pour des raisons de préservation de son consentement. Et en fait, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un enfant qui lui a couru dessus avec une feuille enroulée à la main, en hurlant. Et j'ai bien vu que Bocuse a cru que c'était un bâton que l'enfant avait dans la main. Et là, mon chien s'est liquéfié sur place. Il s'est plaqué littéralement au sol parce qu'il était attaché, donc il ne pouvait pas partir. Il y avait la route juste derrière nous. Et en fait, juste, je l'ai regardé, je lui ai dit « T'inquiète, je gère ». Et en fait, j'ai mis ma main sur la tête de l'enfant au moment où il allait entrer en collision avec mon chien. Je l'ai repoussé. Je lui ai dit, tu vas te calmer, par contre. Et en fait, l'enfant était en train de crier, etc. Et en fait, Bocuse, j'avais pas de choix. C'est-à-dire que moi, je n'ai aucune patience dans la vie et c'est le genre de moment où je m'énerve très fortement. Mais je ne pouvais pas m'énerver pour ne pas stresser. Si je m'étais énervée, ça aurait stressé Bocuse. Vu que les chiens se calquent sur notre comportement. Donc, je me suis dit, moi, il faut que j'ai l'air vraiment détendue. Et du coup, j'ai dit à l'enfant, tu vas te calmer tout de suite, par contre, parce que c'est moi qui vais me charger de toi. J'ai mon chien très peur. Et en fait, il criait, il était là, ah, le chien. Et en fait, moi, je restais calme et je disais à Bocuse, t'inquiète pas, c'est maman qui gère, tout va bien, etc. Et je laissais bien Bocuse derrière moi, histoire que l'enfant ne puisse pas du tout l'approcher. Bocuse était vraiment plaqué, la queue entre les jambes, c'était horrible.
Ah ouais.
Et en fait, au bout d'un moment, j'ai juste dit sèchement au gosse, tu pars maintenant ou ça va mal se passer. Et il est parti chouiner dans les jambes de sa mère qui était 20 mètres plus loin et qui s'est pas dit une seule seconde que la situation était dangereuse, quoi. Et du coup, après, on a tout recommencé au début avec Bocuse. On allait beaucoup plus vite sur le timing, c'est-à-dire qu'au tout début, ça avait vraiment duré très longtemps de désensibiliser aux enfants. Là, ça allait vite, en un mois, c'était réglé, mais on a recommencé vraiment toutes les petites étapes, toute la zone de confort, etc.
Ok, donc j'imagine que là, ça devait pas forcément être agréable, mais surtout, s'il n'est pas attaché, du coup, il a la possibilité de partir, mais après, faut faire gaffe qu'il n'y ait pas de voiture dans le coin, etc., quoi.
Bah ouais, en fait, moi, le truc, c'est que, alors, Bocuse, quand on est en forêt, etc., il est en libre. Ça m'arrive parfois de l'avoir en libre sur, par exemple, la sortie du pipi du soir. Mais sachant que Bocuse, il est OK qu'on génère, il a plutôt un bon rappel. Enfin, voilà, il va jamais très loin. On est plutôt tranquille. Mais typiquement, il va traverser la rue s'il y a un kebab en plein milieu de la route. Ça, j'ai pas le choix. Et moi, c'est toujours les situations où je me dis, ouais, il y a un enfant qui arrive en courant. Si mon chien se barre, c'est très compliqué de rattraper un chien qui a peur. Donc c'est pour ça. Moi, ce que je conseille à tout le monde, c'est de mettre une laisse à son chien, de ne pas l'attendre, et d'apprendre à son chien que si tu ne veux pas partir, c'est moi qui vais gérer. Il n'y a pas de souci là-dessus. Tu n'es pas obligé d'agresser. T'inquiète pas, je gère. Je te mets en sécurité. Tu seras toujours en sécurité avec moi. Mais voilà, après, ça demande un certain sang-froid aussi. Et moi, j'ai des clients qui me disent... moi, je me le sens pas, par exemple, si y a quelqu'un qui veut caresser mon chien dans la rue, de lui dire un nom ferme. Alors que moi, je me gênerai jamais. Je prends le temps d'expliquer quand les gens le demandent poliment, les enfants aussi. Mais quand c'est quelqu'un qui tend la main vers mon chien sans rien me demander, etc., je leur dis non. Comme je dirais à mon chien, en fait. Pas touche.
Ok. Du coup, on parlait un peu des autres, des basiques à connaître. Du coup, on a beaucoup parlé d'autres choses, mais en vrai, c'est bien comme ça. Ça fait des infos en plus. Est-ce que tu peux nous parler un peu d'autres basiques? Je ne sais pas si tu avais terminé sur ce que tu parlais. Donc, tu parlais que les loups et les chiens n'étaient déjà pas les animaux, qu'il n'y avait pas de hiérarchie. Est-ce qu'il y a d'autres?
On a parlé de ça, de signes d'apaisement, etc. La mastication. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai découvert avec Bocuse. Et il y a peu de recherches sur la mastication, mais il y en a
plus. J'allais demander aussi.
On a vachement étudié la mastication du coup chez les chiens de laboratoire sur lesquels on fait d'expérimentation. Okay. Parce que vu qu'on peut pas les sortir, etc., on est obligé d'enrichir leur espace. En fait, c'est le même principe que dans les zoos. Dans les zoos, on bosse que sur l'enrichissement de l'espace parce que on peut pas leur proposer l'environnement idéal. Donc en fait, on essaie de faire au mieux pour qu'ils retrouvent des conditions un peu naturelles, en tout cas qui répondent à leurs besoins. Et du coup, chez les chiens, on a étudié comment mieux enrichir l'espace, et entre autres la mastication, et l'importance que ça a. Et en fait, la mastication, c'est vraiment un besoin chez le chien qu'on a vachement négligé, je ne sais pas pourquoi. Moi, on ne m'avait jamais parlé de mastication avant que j'ai Bocuse, quoi. Et en fait, c'est un besoin, si tu ne le combles pas, déjà, de un, ça ne répond pas à un besoin, mais de deux, du coup, ton chien, il peut rediriger ce besoin masticatoire sur d'autres objets, type les chaussures, le canapé. Alors, je ne dis pas qu'un chien qui mange les chaussures ou le canapé, c'est forcément juste le besoin masticatoire. Ça peut être du stress, ça peut être de l'ennui. Mais voilà, les besoins masticatoires, c'est hyper important. Donc là-dedans, il y a tout un tas de trucs de mastication naturelle, sabots de veau, bois de cerf, cornes de buffle, etc. Et en fait, ça m'a vraiment changé la vie parce que Bocuse, il a pas des gros besoins physiques. Donc, lui, une balade de 1 heure en forêt, ça le suffit largement pour sa journée, quoi. Après, on fait des petites sorties pipi, etc. il a des gros besoins sociaux, donc il a besoin d'être au contact de congénères tous les jours. Et en fait, il a des besoins cognitifs assez forts, sauf que ni lui ni moi, on aime spécialement apprendre des tours. Donc, on ne travaille pas trop les apprentissages de base, on travaille les apprentissages, reste à côté de moi si t'as peur, etc. On travaille la familiarisation aussi. Mais pour répondre à ses besoins cognitifs, on travaille beaucoup tout ce qui est le fait de renifler en balade, de sentir différentes odeurs, etc. Le besoin d'exploration qui est vraiment, vraiment hyper important chez les chiens, et on ne prend pas assez le temps d'avoir une laisse détendue, de laisser son chien renifler du pipi, même si c'est dégueulasse, de laisser son chien respirer une vieille plante morte sur la route, etc. Alors que ça permet vraiment une fatigue mentale. Et du coup, à la maison, des activités masticatoires tous les jours. Moi, c'est en libre-service à la maison, sachant que je ne vis qu'avec un chien dans mon quotidien. Si j'en avais deux, peut-être que ce ne serait pas en continu. Mais en tout cas, voilà, Bocuse, il a une caisse avec des jouets et activités masticatoires. Et en fait, c'est trop drôle parce que je le vois tout seul, parfois. Il va chercher son truc masticatoire, okay. Donc souvent, c'est un sabot. Et en fait, il est là, il mâchonne dans son coin. Et en fait, je vais pas dire que ça l'apaise, mais en tout cas, ça permet à ce moment-là de répondre à un besoin chez lui. Et du coup, ce qui permet après qu'il reparte se coucher. Parce qu'en fait, il a mâchouillé, ça lui a fait du bien. Et en fait, c'est vraiment un besoin chez le chien qui est... Alors, pour moi, c'est toujours un peu compliqué de comparer chien des rues et chien de compagnie. Parce que les chiens
quand
des rues n'ont
pas
de besoin.
Quand tu dis chien des rues, c'est des chiens qui ont été trouvés dans la rue comme ton chien ?
Des chiens qui vivent dans la rue.
Ok.
Encore. Et parce qu'en fait, on a, par exemple, tu vois, les chiens des rues, ils se nourrissent sur des carcasses ou dans des poubelles. Donc, en fait, ils mastiquent beaucoup. En fait, ils passent à peu près 26 minutes par jour à mastiquer pour trouver tout simplement une source de nourriture. Et, nous, du coup, avec les croquettes, le besoin masticatoire, moi, je sais pas, mais Bocuse ne mâche pas. C'est pas un truc qui marche chez lui. Alors, je suis pas forcément contre le fait d'avoir un bol de croquettes. Moi, je garde ça parce que je trouve ça pratique. Mais par contre, c'est vrai que si on propose juste un bol de croquettes sans activité masticatoire à côté, du coup, on répond pas du tout aux besoins du chien. Alors, c'est des besoins de chien des rues, donc je sais pas à quel point on peut les mettre sur le chien de compagnie. Mais en tout cas, par exemple, les chiens de laboratoire, ils mastiquent énormément. On a vu qu'il y avait une étude sur des beagles de labo où on leur a proposé des sabots de veau. Et on avait des chiens qui étaient vachement moins stressés, qui avaient un niveau de cortisol beaucoup plus bas, donc qui est un peu l'hormone de l'excitation physiologique, et du coup, entre autres, du stress. Des chiens qui avaient des meilleures relations entre eux. Enfin, en fait, c'est un besoin, en fait, si tu y réponds, ça améliore le comportement du chien d'une façon générale.
Ok. Vas-y, si tu veux.
Non, j'allais dire, je ne sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, le fait est que c'est un besoin qu'il faut combler.
Ok, du coup, oui, je te demandais par rapport aux chiens de rue, du coup, parce que le fait de mordre pour trouver de la nourriture, enfin, peut-être les sacs poubelles, etc., est-ce qu'on peut, enfin, je sais pas si c'est un bon exemple, mais est-ce qu'on peut appeler ça, du coup, mastication, parce qu'ils doivent quand même déchirer des choses pour trouver de la nourriture.
En fait, c'est exactement ça, c'est le principe de recherche de nourriture et de mastiquer, et c'est pour ça que, tu vois, il y a plein de gens qui sont contre la gamelle pour le chien de compagnie, en disant, oui, mais en fait, à l'état naturel, le chien cherche la nourriture. Du coup, ça le stimule intellectuellement. Sauf que, voilà, moi, j'ai toujours le problème de... On ne va pas comparer un chien qui vit dans la rue à un carlin d'élevage dont les... un carlin d'élevage, tout simplement, quoi. Je sais qu'on est de plus en plus à avoir des chiens qui étaient des chiens errants à la base. Et je ne sais pas si c'est le fait que ce soit des chiens errants, etc., mais moi, je remarque que, tu vois, en consultation, j'ai quand même beaucoup de gens qui ont des chiens errants. Et en fait, dès qu'on t'introduit une activité masticatoire, il y a une espèce de truc où ça va quand même vachement mieux, quoi. Alors, il faut évidemment combler les besoins, sortir son chien, lui donner le choix dans ses interactions avec les congénères, etc. Mais quand même, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui peut changer radicalement le comportement du chien.
Ok, et du coup, c'est peut-être une question un peu bête parce que j'avoue que je connais pas trop le début des chiens, enfin quand ils n'étaient pas encore domestiqués, si on pouvait aussi appeler ça un chien, ou si c'était, je sais pas, est-ce que c'était un mélange chien-loup, je sais pas, j'ai l'impression de dire un peu des bêtises. C'est peut-être que tu pourras plus m'aiguiller.
Ben, du coup, on est encore en train de chercher exactement hein, ce qui s'est passé parce que ça remonte à du coup 15 000 à 30 000 avant Jésus-Christ, donc c'était pas hier. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on avait un truc qu'on appelle le loup ancestral, mais qui n'est pas du tout notre chien, notre loup européen, qui est vraiment un loup ancestral, quoi, donc, qui n'existe plus de nos jours. Et en fait, chez ce loup-là, on aurait eu deux branches. On aurait eu une branche de chiens qui se sont reproduits en... Enfin, de chiens. Oula, on va recommencer avant que je commence à faire comme certains éduques. Donc, on a le loup ancestral. Le loup ancestral, dedans, on a toute une team de loups qui se sont reproduits naturellement et qui ont, au fil des générations, des générations, des générations, des générations, donné notre loup gris.
OK.
Donc, encore une fois, chez ces loups ancestraux, on a toute une team qui s'est rapproché d'humains, et les humains ont aussi vu l'intérêt dans ces espèces de loups ancestraux. Donc déjà, l'intérêt de chasser à deux, l'intérêt d'être protégé, de s'associer à un autre prédateur, etc. On a longtemps pensé que c'était un espèce de syndrome de Stockholm, où des humains étaient allés capturer des petits loups et les avaient gardés avec eux pour que ces petits loups vivent avec nous. Et en fait, les loups à ce moment-là, enfin ces loups ancestraux, ont aussi eu un bénéfice à vivre avec nous. Et en fait, eux aussi sont venus chercher ça. Et donc, eux ont été reproduits d'une façon beaucoup plus artificielle, du coup, sous le contrôle de l'humain. Alors, on n'était pas encore dans les races, hein, mais voilà. Et en fait, cette petite lignée-là a fini par donner plusieurs types de chiens, dont nos chiens de compagnie.
D'accord. Du coup, et oui, pardon, je voulais te dire aussi, c'est quoi le syndrome de Stockholm ?
Pardon, le syndrome de Stockholm, c'est un truc assez horrible en psycho. C'est par exemple ce qu'on voit chez les enfants qui se font enlever, c'est horrible. Les enfants qui se font enlever et qui, ben, 10 ans plus tard, on va aller chercher chez la personne qui les a enlevés et en fait, les enfants sont attachés à cette personne.
Ah, ok, ok. Oui,
et en fait, c'est...
Excuse-moi, vas-y.
Non, et c'est juste le fait de développer un lien d'attachement avec quelqu'un qui t'a fait du mal, en gros.
Ah, ok, oui, parce que j'allais te demander, parce que je me disais pourquoi finalement ils se seraient rapprochés de l'homme, et c'est plus logique que du coup l'homme les ait un peu capturés, et du coup finalement ça ait changé un peu, enfin peut-être pas changé l'ADN, mais en tout cas changé un peu leur façon de vivre, quoi.
Ouais, bah en fait c'est ça, et puis faut jamais oublier que tout ça, ça s'est fait sur je sais pas combien de milliers d'années. Et, ouais. Et qu'après ça, on en est arrivé à avoir effectivement plusieurs races de chiens, mais globalement, il y avait les molossoïdes d'un côté, donc les gros chiens stock pour la protection, et les graphoïdes, c'est des styles lévriers, qui étaient là plutôt pour la chasse, courir vite sur peu de temps. Et aujourd'hui, on a, je crois, 357 races de chiens qui ont été sélectionnées de façon totalement artificielle. Et voilà, et en fait, c'est pour ça que pour moi, quand on compare le loup au chien, on n'est vraiment pas sur quelque chose. Et ça pourrait vraiment être des cousins extrêmement éloignés, quoi.
Ouais, parce qu'ils ont un peu un ancêtre commun, même si c'est pas totalement sûr. Ouais. Et... Ouais, voilà.
Okay. Non, il y a forcément un ancêtre commun, parce qu'en fait, il y a un moment où on n'avait pas 600 000 espèces non plus à ce moment-là. Donc le chien descend forcément de quelque chose. Mais c'est pas le chien descend du loup, c'est le chien descend d'un loup ancestral qui n'est même pas notre loup, qu'on ne pourrait même pas étudier en fait de nos jours et savoir comment il fonctionne.
Ok. Et du coup, ma question par rapport à ça, est-ce que tu sais s'il y a eu s'il y avait cette mastication chez des loups ancestraux ?
Ben, je pense que oui, parce qu'en fait, si on part du principe qu'ils chassaient. S'ils chassaient, ils devaient manger des petits fruits par terre. Donc, en fait, il y avait de la recherche, il y avait du besoin de décortiquer. Mais c'est pareil, le chien, au plus loin, on remonte au proto-chien. Donc, les chiens le plus loin possible qui ressemblent à des chiens. C'est des carnivores opportunistes. Donc, en fait, ils vont manger de la viande s'il y a, mais s'il n'y a pas, ils vont aller grappiller des petits fruits à droite, à gauche, etc. Donc, en fait, même si ce n'est pas de la mastication à proprement parler, ça reste de la recherche et du décortiquage, tu vois.
Ok, oui, j'allais demander aussi par rapport à la mastication. La recherche, ce n'est pas forcément de la mastication, mais ça rentre quand même dans ce...
ça rentre dans toute la team de... Ouais. Et dans tout ce truc-là de comment mieux répondre aux besoins de son chien, quoi.
Ok. Du coup, je pense qu'on a fait à peu près le tour des basiques à connaître, ou peut-être que t'as peut-être quelque chose à rajouter encore.
Ouais, j'ai un truc à rajouter, okay. C'est que il a été démontré scientifiquement chez le chien, mais comme en fait chez tous les animaux, qu'on apprend mieux en renforcement positif qu'en punissant.
Ok.
Et ça, c'est vraiment un truc. Enfin voilà, c'est validé scientifiquement que ça marche mieux sur les chiens, qu'on a des chiens moins stressés, qui apprennent plus vite, qui apprennent sur du plus long terme. Et qui ont moins de comportements agressifs, surtout.
Ok. Du coup, ça me permet de poser cette question, parce que j'avoue que j'ai un peu du mal à comprendre la différence entre le renforcement positif et négatif, parce qu'à la base, moi, je croyais que c'était positif, dans le sens c'est bien pour le chien, mais il me semble que c'est parce qu'on rajoute quelque chose, non ?
Ouais, en fait, après, enfin voilà, moi, c'est tout un truc, un pan que je trouve compliqué,
ouais.
De bien trouver les termes, etc. Enfin voilà, même moi, parfois, j'inverse mes termes. Ce qu'il faut retenir, c'est que positif, c'est l'ajout de quelque chose. Donc, dans le renforcement positif, on va renforcer un comportement, c'est-à-dire qu'on va augmenter la probabilité qu'il apparaisse en ajoutant quelque chose de positif.
Oui, voilà, c'est pas, ça... pas rajouter quelque chose, mais qui va faire du mal au chien, quoi.
Non, mais du coup, c'est quelque chose qui va lui faire du bien. Donc, ça peut être une friandise, ça peut être une félicitation à la voix, ça peut être une caresse, si le chien aime dans les caresses. Et de l'autre côté, du coup, on a la punition positive, où le but, ça va être de diminuer la probabilité d'apparition d'un comportement en ajoutant quelque chose de déplaisant. Et donc, ça peut être gueuler sur son chien, lui mettre une tarte, le pousser. On a un petit problème de chien qui a décidé d'aboyer. Oui, du coup, je disais, il y a plein de moyens de renforcer son chien. Et c'est surtout qu'en fait, c'est vraiment prouvé scientifiquement que quand tu renforces positivement les actions de ton chien, plutôt que d'attendre qu'il se plante et de le punir, bah, t'as un chien qui apprend plus vite, qui a des apprentissages plus ancrés, qui va être moins stressé et qui aura moins de risques d'agression, que ce soit sur soi, mais aussi sur les autres humains présents. Donc ça vaut quand même vachement le coup de privilégier le renforcement positif à la punition.
Ok, super. Du coup, on va passer à la dernière question et ensuite on passera aux questions de fin.
Ça marche.
Du coup, en tant que docteur en éthologie, quel conseil donnerais-tu pour mieux comprendre son chien ?
Déjà d'être suivi par un éducateur canin qui travaille en vraie méthode bienveillante, positive, respectueuse, tout ce qu'on veut.
Même si je suis d'un côté.
Ouais, en fait, je trouve que le regard extérieur est toujours bénéfique. Et moi, là, ces derniers temps, je me suis posé la question de est-ce que je vais rappeler mon éduc pour 2-3 petits trucs ou j'aimerais bien qu'elle me dise ce qu'elle voit à travers ses yeux parce que, en fait, quand c'est ton chien, parfois, t'es biaisé sur des comportements et du coup, tu peux pas trop bien les analyser. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est comme... Enfin, moi, en tant que psy, si je me mettais à faire de la psycho sur ma vie, je me foirerais totalement, quoi.
Ouais.
Et en fait, d'avoir un petit regard extérieur, ça aide quand même. Et je trouve que, en fait, tous les gens qui adoptent un chien devraient passer par le stade. On voit un éduc pour, en fait, justement, bien comprendre quels sont les besoins des chiens. Quels sont les besoins de ce chien, comment communique le chien, comment communique ce chien. Mais le problème, c'est qu'il faut aller voir un bon éducateur. Et moi, j'ai plein de gens hein, sur le podcast, mais aussi en client éduc, qui ont commencé avec un éducateur. L'éducateur était horrible. Il ne connaissait rien au chien. Il ne connaissait pas grand-chose à la pédagogie humaine aussi. Et du coup, il leur a cassé leur chien, alors que peut-être que s'ils avaient vu personne, ce serait mieux passé. Et je conseille aux gens de prendre le temps. Alors, je sais que l'humain a un peu du mal avec ça, mais vraiment de prendre le temps en balade, par exemple, d'aller au rythme de son chien, de pas trop le presser, d'essayer de prendre un peu son temps. Ah, il s'est secoué. D'essayer de prendre un peu son temps, de vraiment essayer de partager des moments à deux plutôt que de se dire là je suis pressée, mon chien doit coller à mon emploi du temps, etc. Et de prendre aussi le temps d'observer son chien. Ça, c'est vraiment un truc... en fait, il y a peu de gens qui le font, je trouve. Alors, je ne sais pas si c'est parce que je suis en milieu urbain, mais je vois souvent des gens qui tirent sur la laisse ou leur chien, il essaie de pisser. Et en fait, les humains ne remarquent même pas que leur chien est en train d'essayer de faire pipi ou leur chien a peur de quelque chose et ils vont le traîner, mais parce qu'en fait, ils ne le regardent pas. Alors que dès que tu poses vraiment tes yeux sur ton chien, tu arrives quand même mieux à décoder ses signaux. Et voilà. Et après, franchement, de chercher les bonnes sources d'informations. Enfin voilà, on commence à être quand même pas mal de podcasts à parler des chiens d'une façon bienveillante et tout. Alors il y a des podcasts que je ne conseille pas du tout, mais voilà, par exemple le podcast de Claire Delaniche, il est super cool. Et des bouquins, bah, je sais que Claire l'avait conseillé, mais Le comportement de mon chien de Charlotte Duranton, pour moi c'est vraiment un indispensable quand on adopte un chien. Et par exemple le bouquin sur les signaux d'apaisement de Toury Drugas, alors qui est pas scientifique, hein, mais au moins qui donne un peu la base de la base, et je trouve qu'il pousse à regarder son chien d'une autre façon.
Ok. Du coup, on va passer aux questions 20. Qu'est-ce que t'apportes les animaux dans ta vie ?
Oula !
C'est vachement.
La dernière fois, surtout, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font les gens qui n'ont pas d'animaux, quoi ? Alors, je ne vais pas partir dans un truc trop fleur bleue, en mode « mes animaux, c'est ma vie », etc. Mais clairement, mes animaux sont au centre de ma vie, ce qui a ses avantages et ses inconvénients. C'est que je fais passer mes animaux en priorité sur tous les choix de vie que je vais faire, sur où je pars en vacances, etc. Mais sur aussi, là j'ai déménagé il n'y a pas longtemps, où est-ce que j'habite, sur qui je peux inviter à la maison, qui je ne peux pas inviter à la maison, etc. Donc je fais vraiment mes choix en fonction de mes animaux, et je pense que ça m'amène à faire des choix assez réfléchis, donc ça m'apporte quand même du plus. Et globalement... Enfin, franchement, c'est une compagnie assez hors pair. Enfin, je dirais pas que je suis quelqu'un de solitaire parce que j'aime beaucoup voir des gens, mais chez moi, j'aime bien être seule. Par contre, je me dis que vraiment, les gens qui n'ont pas d'animaux, ils doivent se faire chier chez eux, quoi. Enfin, c'est tellement cool d'avoir des animaux, ils font plein de trucs. Oui,
beaucoup.
Bah ouais, et puis, enfin, je sais pas, parfois, je suis juste en train de lire dans mon canapé et je les regarde en train de dormir et juste, ils sont trop mignons. Et c'est, voilà, c'est pas utile, mais c'est cool, quoi. Et puis, je pense que les animaux m'ont amené à faire beaucoup, beaucoup de rencontres. Déjà, bon, parce que j'ai fait ma thèse sur les chiens et du coup, j'ai rencontré des gens par rapport à ça. Avec le podcast, je rencontre pas mal de gens du monde du chien. Mais voilà, par exemple, là, dans mon quartier, je me suis fait plein de potes parce qu'en fait, on a tous des gros chiens. Enfin, toutes des gros chiens, d'ailleurs. Et on va promener nos chiens ensemble, etc. Et puis, au final, ça m'a permis de créer des vraies amitiés. Donc ouais, je pense que mes animaux, c'est un peu les organisateurs principaux de ma vie.
Ok, trop bien. Et est-ce que tu aurais une lecture, un documentaire, un compte Instagram, une chaîne YouTube à conseiller aux personnes qui nous écoutent ?
Du coup, je remets une couche sur le comportement de mon chien, de Charlotte Duranton, parce que vraiment, pour moi, c'est un indispensable.
Le confirme.
franchement, c'est... Enfin, je trouve que même pour les gens... qui sont pas... Donc Charlotte, elle est docteure en éthologie, etc.
Ouais.
Mais même pour les gens qui ne sont pas scientifiques, c'est vraiment extrêmement bien écrit et accessible. Alors, en podcast chien, moi, je suis très pinailleuse. Donc, j'écoute que celui de Claire. Et j'écoute Mordant, je crois. Mais je n'écoute pas tous les épisodes. Spécifiquement sur le chien, voilà. Il y a Vétologie aussi que j'aime beaucoup. C'est des vétos qui parlent d'éthologie. Et alors, quand des vétos s'intéressent à l'éthologie, moi je suis ravie.
Je le connais depuis pas trop. Enfin, je l'ai connu il y a allez, 3 mois, même pas. Et j'adore, c'est trop bien, c'est hyper intéressant.
Ouais, franchement, c'est hyper intéressant. Et puis, je trouve ça vraiment super que les vétos parlent de comportement. En ayant lu des articles scientifiques dessus et en s'étant formée. Enfin, voilà, c'est deux nanas qui sont vraiment extrêmement intéressantes. Et il n'y a pas longtemps, il y a Madame a du chien qui est sortie. Donc dedans, il y a Chloé Fesch, il y a la nana de Danse avec ton chien, et il y en a une autre, j'oublie toujours son prénom. Mais du coup, c'est assez intéressant parce que c'est un podcast que je voulais un peu sortir à la base, qui mêlait un peu... masculinité toxique et éducation canine, quoi.
Okay.
Et du coup, c'est assez cool. Enfin, bon, après, elles abordent ça d'une façon très soft. Moi, j'aurais été un peu plus énervée dans ce que je dirais. Mais voilà, il y a un épisode sur la dominance et ce que ça implique aussi. Enfin, voilà, la dominance dans les rapports hommes-femmes, dans les rapports de travail et tout. Là, il y avait un épisode sur le consentement. Voilà, et je trouve ça hyper intéressant. Je ne recommanderais pas de chaîne YouTube parce que je ne regarde pas du tout de vidéos YouTube sur le chien.
D'accord, pas de souci.
Pour le coup. Et enfin, si, j'en regarde, mais je regarde les vidéos nulles. pour pouvoir avoir un avis critique dessus.
Ok. Bah, après, on peut aussi conseiller ton podcast, peut-être. Enfin, peut-être
on
que
peut
toi,
conseiller.
Tu peux le conseiller, mais en tout cas, c'est quand même une bonne ressource.
Ouais, bah, je peux me faire de l'autopub sur là, on n'est pas énormément d'épisodes parce que du coup, ça prend énormément de temps et ouais, je suis un peu une psychopathe du perfectionnisme. Je pense que ça me nuira un jour. Mais voilà, moi, je m'attelle vraiment à la tâche. Donc, j'ai 2 épisodes par mois. Il y en a un où c'est vraiment... je parle un peu de mes expériences personnelles parce que je pense que c'est toujours intéressant et j'essaie beaucoup de déculpabiliser les gens en rappelant que voilà, moi, c'est pas parce que je suis docteur en éthologie que mon chien est parfait, que moi, je suis parfaite, qu'on n'a pas des moments d'incompréhension, etc. Et je fais un épisode scientifique où... je me casse la tête à faire une revue de la littérature sur un sujet pour essayer de sortir ça de la façon la plus claire possible. Et je trouve que c'est pertinent. Alors, je ne vais pas m'envoyer trop de fleurs non plus parce que je n'aime pas ça. Mais je trouve que ça peut intéresser autant les gens qui viennent d'adopter un chien et qui veulent en savoir plus que des professionnels qui auraient besoin d'appui scientifique dans ce qu'ils disent à leurs clients.
Écoute, j'ai pas de chien et je pense que j'en aurai pas avant un petit moment, mais en tout cas, comme je t'ai dit, moi j'aimerais bien travailler un peu dans cette branche-là et du coup, bah, c'est hyper intéressant parce que ça m'apprend plein de trucs, quoi. Donc, merci pour ton podcast.
Bah, merci, c'est gentil.
Et du coup, où rediriger les auditeurs et auditrices? Du coup, tu as dit ton podcast, mais est-ce que tu as un site, une chaîne pas une chaîne YouTube, mais YouTube, oula, je vais y arriver, un compte Instagram, etc.
Ouais, alors du coup, j'ai un site qui s'appelle danslatetedeschiens.fr, comme le podcast, qui va être mis à jour cet été parce que j'ai remarqué que il y avait encore des articles de blog qui datent de 2015, donc je vais peut-être relire ce que j'ai écrit à cette période-là de ma vie.
Okay.
Et sur Instagram, danslatetedeschiens.podcast, où c'est principalement juste des photos de mes animaux en train de dormir, mais parfois, je fais aussi des petites infographies et je poste des petits mèmes... Merci, Kuba. Et je pose des petits mèmes où j'aborde des sujets un peu difficiles d'éducation canine en essayant d'en rigoler.
Ok, super. Mais encore merci pour cet épisode, même s'il y a eu un bug à la fin, mais c'est pas grave. On a réussi, donc merci beaucoup. C'était hyper intéressant.
Trop bien.
Merci.
Trop cool. Bah, merci à toi et puis à bientôt peut-être.
Merci.